Ratafia par Alain Couder, deuxième cassette, deuxième piste, page 103. Ratafia s'éveilla en sueur. Il sortait d'un cauchemar peuplé de bêtes étranges et d'humains malveillants qui le poursuivaient et criaient. Il mit un certain temps à comprendre que des appels venaient du dehors. C'était la voix de Radouble. Ratafia sortit précipitamment. « Frère, dit-il, toi ici, que se passe-t-il »«
Un grand malheur, vois-toi-même. »
Dans l'aube qui pointait, Ratafia regarda la mer. Il n'y avait rien. Il lui fallut un instant pour réaliser que le vaisseau des humains avait disparu. Mouillé jusqu'à l'os, claquant des dents de terreur et de froid, Radouble raconta. Le navire a cassé son ancre. Après l'accalmie, il a été poussé sur les rochers et englouti en l'espace de quelques minutes. J'ai survécu accroché à un morceau de poutre. C'est un miracle. Et les vagues étaient gigantesques. Elles m'ont rejeté sur la plage. Nos compagnons ont disparu. Les humains n'ont pas eu plus de chance qu'eux. Je n'ai vu que quelques rescapés. Par contre, la mer a vomi beaucoup de cadavres. C'est terrible. Je me suis abrité sous une souche arrachée près du village dont il ne reste rien. Dès que le vent a commencé à souffler un peu moins fort, je suis monté ici.
Va te restaurer
et te reposer, dit Ratafia. Raptus et moi, nous allons nous rendre au bord de la mer pour voir si nos compagnons sont toujours en vie. Au milieu de la végétation dévastée, la descente se révéla glissante et difficile. Le soleil était déjà haut quand les deux rats parvinrent à la plage. Un spectacle de désolation les attendait. De nombreux cadavres de marins noyés avaient été rejetés par la mer. D'autres avaient été tués par les flèches des humains du village. De ces derniers, il ne restait plus rien. Les survivants avaient déjà pris la fuite, emportant ailleurs, avec leurs souvenirs, ce que le vent et les eaux avaient épargné. Raptus découvrit le cadavre de Rasibus. Ils s'empressèrent de l'enfouir à l'orée de la forêt dévastée, avant que la charogne ne le ronge. Malgré leurs appels et leurs recherches, le reste de la journée, ils ne trouvèrent aucune trace de Ralingue. La pluie violente qui s'abattit le soir les chassa vers la brissure des terriers sur le flanc de la montagne. La tristesse leur serrait le cœur. Chapitre 9. Sous les tropiques, la nature est extraordinaire. En quelques mois, des feuilles apparaissent aux arbres déchiquetés. De jeunes plants naissent autour des troncs couchés à jamais. L'humidité et la chaleur aidant, bientôt toute trace de catastrophe est gommée. La mort de Rasibus et la disparition de Ralingue furent compensées par la naissance de bébés au foyer de Rastakato et de Ravnala. Rabban avait bien grandi. Le clan venait de célébrer son mariage avec Raptus. En somme, la vie continuait. Tous les fruits avaient été détruits par le cyclone. Ratafia passait ses journées à la recherche d'une nourriture de plus en plus rare. Il dut se rabattre sur les racines pour nourrir le clan. Chaque jour, il allait chercher à manger plus loin que la veille. Il explorait des contrées inconnues à l'intérieur des terres. L'absence d'humains se faisait cruellement sentir. D'habitude, disait-il, nous trouvons facilement notre nourriture parmi leurs restes. Depuis la destruction du village, les hommes ont tous pris la fuite. Il doit pourtant rester sur cette île. Mais où ? Toutes les plages étaient désertes. Ce n'était partout que désolation, vestiges de villages abandonnés, sans même un chien à proximité, heureusement. Un soir, Ratafia décida de pénétrer avant dans la forêt. Il prépara soigneusement son voyage. Je marcherai vers le levant après avoir contourné la montagne. J'irai ainsi 2 jours. Puis je tournerai vers le sud et je marcherai encore 2 autres journées. Après quoi, je gagnerai le bord de la mer pour rentrer. Je serai donc de retour dans environ 4 fois 2 jours. Si je trouve un village d'humains, nous déménagerons tous pour nous rapprocher d'eux un certain temps, car je ne sais pas si nous pourrons attendre la prochaine récolte de fruits sans risque. Je confie la destinée du village à Raptus. Dès avant l'aube, sa vieille musette maintes fois rapiécée sur le dos, son bâton ferré à la main, Ratafia entama sa longue marche, plein de courage. Au soir, il avait à peine contourné la montagne. Un malheureux lézard trop curieux arriva à point pour apaiser sa faim tenace. Après ce repas improvisé, il s'installa entre les racines d'une large fougère qui, sous les tropiques, sont comme des arbres. Il s'endormit très vite. Un craquement près de son refuge l'éveilla. Avant qu'il ait eu le temps de bouger, il vit devant lui le museau d'un chien muet. Heureusement, le chien, aussi surpris que lui, marqua un temps d'arrêt. Ratafia en profita pour sauter hors de son lit et escalader le tronc de la fougère. Le chien bondit, mais pas suffisamment haut pour atteindre le rat. Après plusieurs tentatives infructueuses, il se coucha au pied du refuge de Ratafia et attendit. « Je ne vais pas passer ma journée perché comme un oiseau !» dit Ratafia qui sentait la colère monter en lui. Son poil se hérissa tout seul. Il doubla de volume, ses dents se découvrirent et il descendit lentement le long de la fougère. Quand le chien le vit ainsi transformé, il renonça immédiatement. Il s'éloigna, la truffe au sol, espérant trouver plus loin une proie moins difficile. « Je ne savais pas que je pouvais me faire craindre ainsi de ces animaux !» s'esclaffa Ratafia tout heureux. « Un chien dans les parages est annonciateur de la présence d'êtres humains. Je vais le suivre et peut-être trouverai-je un village. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Ratafia emboîta le pas à l'animal, à bonne distance toutefois. Ses efforts furent rapidement récompensés. Sur un morne, c'est-à-dire une colline, une petite montagne, apparut un vaste village confortablement abrité du vent. Il paraissait ne pas avoir trop souffert du cyclone. Il comportait beaucoup de huttes, d'enfants remuants et de chiens pelés et silencieux. Sans attendre, Ratafia se glissa prudemment entre les carbets, c'est-à-dire un carbet, c'est une petite cabane ou une grande case ouverte servant d'abri, à la recherche d'un peu de nourriture pour montrer à ses amis qu'il avait réussi dans son entreprise. Progressant par bonds successifs, il parvint jusqu'à un endroit où séchaient des cassaves. C-A-2-S-A-V-E-S, ce sont des galettes cuites de farine de manioc. Il eut tôt fait d'emplir sa musette du gâteau craquant. Soudain, il sentit un regard peser sur son dos. Il se tourna vivement et resta figé de stupeur. En face de lui, sous un carbet, deux yeux rouges l'observaient. « Pas possible. On dirait un ami. » Ratafia se garda bien de crier comme il en avait envie pour ne pas attirer l'attention des chiens sur lui. Lourdement chargé, il gagna l'orée du bois, déposa son butin dans un tronc d'arbre creux à l'abri des regards et des museaux des curieux, puis revint sur ses pas. Les yeux rouges avaient disparu, mais une odeur caractéristique persistait. « Pas de doute, il s'agit bien d'un rat comme moi. » Mais pourquoi a-t-il fui? Craint-il que je veuille le chasser de son territoire? Je vais le retrouver et lui expliquer. Ensemble, nous vivrons mieux qu'isolés. Ratafia retrouva vite la trace de l'inconnu. Cependant, son attention fut attirée par un spectacle insolite. Au milieu de la place, tous les chiens du village escortaient un rat. Un vieux rat au poil blanc tout clairsemé, mais un rat comme lui. Les chiens ne semblaient pas vouloir lui réserver un mauvais sort. Si l'un d'eux s'approchait de trop près, le rat le tenait en respect en lui montrant ses incisives proéminentes. Voilà pourquoi ce matin mon assaillant s'est éloigné sans demander son reste quand je lui ai montré les dents. Ce compère a parfaitement dressé les chiens. Pour arriver à un tel résultat, il a dû tous les mordre un jour ou l'autre. Profitant de ce que l'attention des chiens et des humains qui regardait cette scène avec respect et crainte était détournée, Ratafia contourna la place. Il courut si vite qu'il se retrouva nez à nez avec le vieux rat sous un carbet. Je te rappelle que ça veut dire un abri. Le rat s'arrêta et découvrit ses incisives. « Ralingue ! » s'écria Ratafia. « Pas possible, tu es Ralingue ! Ah, quelle joie de te retrouver !» Il avait beaucoup vieilli, Ralingue, et il était devenu méconnaissable. Il ne bougea pas et resta les dents découvertes. Ratafia remarqua alors son regard vide et plus rouge qu'il ne convient à un rat. « Compère, compère, ne me reconnais-tu pas? Je suis Ratafia !» À ce nom, Ralingue montra un signe d'apaisement. Il se détendit. « Mais Ralingue, que t'est-il arrivé ? Après le cyclone, nous t'avons cherché partout, nous te croyions mort.
Comment m'as-tu appelé ?
Ralingue, et moi je suis Ratafia.
Ces noms me disent quelque chose, seulement il y a un grand vide dans ma tête.
Mais que t'est-il donc arrivé, Ralingue ?
Je ne sais pas. Il y a, je te dis, un grand vide dans ma tête. J'ai l'impression d'avoir toujours vécu seul dans ce village, jusqu'à ce que j'aperçoive tout à l'heure ta silhouette qui me rappelle quelqu'un, mais tout cela est flou dans mon esprit.
Veux-tu venir au village avec moi ? Dit Ratafia. Le clan sera heureux que tu reprennes ta place en son sein. Te souviens-tu de Raptus, de Radouble, de Rastakato et de sa femme Ravnala, et de notre malheureux compère Razibus, et de l'ouragan ?
Non, je ne me souviens de rien, dit Ralingue. Je suis vide. Maintenant, je viens seulement de retrouver mon nom, Ralingue.
Viens au village avec moi, nous te soignerons, tu retrouveras la mémoire, la vue de tes amis t'aidera, nous te raconterons les histoires dont tu nous as abreuvés pendant la traversée sur le bateau. À ce dernier mot, Ralingue se mit à trembler. Ratafia comprit. Il a eu très peur pendant la tempête, pensa-t-il, et l'épreuve est trop forte. Elle lui a fait perdre la mémoire. Nous devons l'aider à guérir. Sans plus attendre, il empoigna son compagnon et, par un chemin détourné, le poussa vers la forêt. Chapitre 10. Le voyage de retour fut plus long que prévu. Ralingue était faible et avançait lentement. Il s'essoufflait vite. Des arrêts fréquents s'avéraient indispensables. Après 2 jours et demi de marche, le village du clan apparut désert. Les deux rats arrivèrent épuisés à l'heure la plus chaude de la journée. Leurs compagnons s'étaient réfugiés au frais, au plus profond de la terre. « Oh là, venez tous, venez voir qui est avec moi !» cria Ratafia. Raptus, accompagné de Rabanne, mit son nez hors du terrier voisin. Leurs yeux rouges s'ouvrirent tout grands à la vue du revenant. Rabanne plongea dans les profondeurs pour revenir aussitôt accompagné de sa mère. « Que t'était-il arrivé, compère ?» demanda Raptus tout joyeux. Ralingue ne répondit pas, cherchant du regard autour de lui quelque chose où accrocher ses souvenirs. « Notre ami a perdu la mémoire et un peu de sa raison, » commenta Ratafia. « Nous devrons veiller sur lui pour les lui rendre et pour retrouver le si bon compagnon qui nous divertissait tant avec ses histoires. » Quel malheur, soupira Rabanne. Nous voilà avec 2 malades. Mon père aussi est alité. Les privations et la rudesse des épreuves depuis sa déchéance de l'autre côté des mers ont usé son vieux corps. Rastakato, malade ? Demanda Ratafia. Très, dit Ravnala. Je crains qu'il ne passe pas la prochaine nuit. Il a d'ailleurs demandé à te voir dès ton retour. Il t'attend. Ratafia l'a suivi. Rastakato reposait sur une confortable paillasse de coton sauvage. Il avait vieilli de plusieurs années en quelques heures et ne pouvait plus se lever. On entendait à peine sa voix. « Ah, compagnon, te voilà enfin, » dit-il. « Je ne voulais pas partir sans te confier mon épouse et nos enfants. »«
Voyons, Rastakato, tu vas guérir, j'en suis certain. »
« Non, je sais que je n'en ai plus pour longtemps. Ce qui me chagrine, c'est que je m'en vais en laissant une épouse et de jeunes enfants, » répéta-t-il. « Je te demande à toi, Ratafia, qui est le plus courageux de nos compagnons, d'en prendre soin. Tu épouseras Ravnala, si tu le désires, ou l'une de mes filles, et notre race survivra à ma disparition. Tu créeras, comme tu en as toujours eu l'envie, une vaste colonie sur les îles. J'aurais voulu t'aider. » Mais mes forces me quittent. Adieu, ami. Ce que tu feras sera bien fait.
Avant que Ratafia ait pu faire un seul geste, Rastakato se recroquevilla sur lui-même et expira. Il t'a attendu jusqu'au bout de ses forces pour te dire cela, murmura Ravnala. Il est mort heureux d'avoir pu te délivrer son message. Il y tenait beaucoup. N'aie aucune crainte, Ravnala. dit Ratafia, je ferai selon les volontés de ton mari. Je te protégerai et t'aiderai à élever tes jeunes enfants. Pour ce qui est du reste, il est trop tôt pour en parler. Allons annoncer la triste nouvelle aux compagnons. Malgré cette série de malheurs, une nouvelle fois, la vie reprit le dessus. Elle sembla même s'accélérer vertigineusement. Les enfants de Ravnala avaient grandi et les alentours résonnaient de leurs cris joyeux. Rabban attendait ses premiers bébés. Pour eux, Raptus, qui rayonnait de bonheur, avait creusé un nouveau village à quelque distance du premier. Ralingue, s'il n'avait pas encore tout à fait retrouvé la mémoire, était redevenu le joyeux compagnon qu'il avait su être avant son accident. L'époque où il traitait Ratafia comme un engagé, comme un serviteur, était oubliée depuis longtemps. Le lendemain même de la naissance des enfants de Rabban et de Raptus, il se produisit trois événements importants à quelques heures d'intervalle. Ratafia avait pris l'habitude, avec un compère, de rechercher la nourriture la nuit au village des humains d'où il avait ramené Ralingue. Il avait découvert un chemin à travers la montagne grâce auquel l'aller et retour lui prenait moins d'une nuit. Comme il rentrait en compagnie de Radouble, il sentit ses pattes se dérober sous lui. En même temps, quelques branches qui avaient échappé au cyclone dégringolaient autour de lui. Il tomba à genoux. « Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je me trouve mal !» Son étonnement fut bref. Radouble aussi s'était agenouillé à terre. Toute la terre tremblait. Heureusement, la secousse, quoique violente, fut brève. Ils se hâtèrent vers le village, craignant le pire pour ses habitants. Quand ils arrivèrent, tous les autres rats étaient en dehors, en grande agitation, y compris Rabban et ses petits tout nus.
« Ah, Ratafia, que se passe-t-il ? » demanda Ravnella.
« Je ne sais pas. Nous avons senti le sol bouger sous nos pattes, comme une grosse bête sous terre qui secourait son dos. Nos villages ont souffert. Des galeries se sont bouchées, des chambres se sont écroulées. Par bonheur, celles où nous séjournions ont résisté, et personne n'a blessé, » ajouta Raptus. « Écoutez, mes amis, » dit Ratafia, « je ne pense pas que tout cela soit bien grave. Nous ferons les réparations qui s'imposent dans la journée. En attendant, nous allons nous installer tous à l'ombre des arbres. Nous avons subtilisé aux humains un lourd morceau de porc sauvage qui nous fera oublier ce mauvais moment. À table, avant que Radouble ne profite de notre émotion pour tout dévorer dans notre dos. » Le clan retrouvera peu à peu sa joie en faisant honneur au repas. Il n'était pas encore arrivé au dessert quand Ralingue poussa un cri. « Des bateaux, des bateaux !» Un très long canot, manœuvré par des humains comme ceux dont le village avait été détruit par le cyclone, touchait la plage. Il était suivi de plusieurs autres plus petits. Ralingue gesticulait beaucoup en criant. Il se figea brusquement, puis s'assit au milieu des compagnons et dit
« Mes amis, désormais, je crois que Ratafia n'aura plus besoin de nous guider la nuit très loin pour que nous rapportions de la nourriture. Le ravitaillement arrive à domicile. »
Raptus fut le premier à voir que l'étrange lueur, qui brillait encore parfois dans les yeux de Ralingue, venait de disparaître. « Frère, dit-il, aurais-tu recouvré la raison ?»«
Frère, je crois que oui. Je me souviens de ce qui m'est arrivé à présent. Mais ne me demandez pas de vous le conter, cela me serait trop pénible. Sachez seulement que j'ai vu périr notre ami Razibus dans des circonstances horribles, et beaucoup d'humains aussi. Ceux dont la mère n'avait pas voulu ont été massacrés par ceux du village. Ah, les humains sont une drôle de race. Ils tuent sans nécessité, juste pour le plaisir. Je crois que c'est la vue de tout ce sang sur la plage qui m'a rendu dément. Mais maintenant, je reprendrai bien encore un petit morceau de porc si Radouble en a laissé avant de faire honneur au dessert. »
Et un grand éclat de rire ramena définitivement la bonne humeur au clan. Chapitre 11. Les humains s'installèrent près de leur ancien village. En quelques heures, ils eurent défriché un plateau qui surplombait la mer, se mettant ainsi hors de portée d'une brusque montée des eaux. Coupèrent de petits arbres pour construire leur cabane, débarquèrent des canaux les poteries qui leur servaient d'ustensiles de cuisine et enfin accrochèrent leur hamac. Un groupe d'hommes déposa dans la baie des casiers et rentra au village avec une grande abondance de poissons. Radouble passa une bonne partie de la journée à proximité du nouveau village des humains, profitant de l'activité qui y régnait pour dérober tout ce qui lui semblait comestible. Il rapporta au terrier force têtes de poisson qui firent la joie des petits et des grands. Lui, à l'étonnement des autres, n'y toucha pas.
« Oh là, Radouble, tu n'aimes plus le poisson ?» demanda Ralingue.
Si fait, mais le piment que ces humains utilisent avec trop d'abondance me gâte l'estomac.
N'est-ce pas plutôt que tu as déjà dévoré plus que ta part, suggéra Rabanne.
J'ai ramené de quoi nourrir toute la communauté.
C'est juste, poursuivit Ratafia, mais je crois que tu n'as apporté que ce que tu n'as pas pu consommer sur place. Si mes souvenirs sont exacts, tu as appris à aimer le piment, te plaignant désormais quand la nourriture est trop fade.
Ton manque d'appétit ce soir serait dû, selon moi, à un excès.
Tu as trop mangé, Radouble. Tu vas être malade.
Tu crois ? Demanda Radouble soudain pâle.
Bien sûr. Depuis le cyclone, nous nous sommes essentiellement nourris de racines, de quelques fruits et de quelques cassaves et galettes que nous avons eu toutes les peines à dérober aux humains de la montagne. En dehors de ce matin, nous n'avions pas mangé de viande depuis longtemps. Il faut donner à nos estomacs le temps de s'y habituer.
Mais est-ce que je vais être malade ?
Pas si tu prends le temps de digérer entre deux repas, conclut Ravnala. Un frisson de rire réprimé secoua la troupe lorsque Radouble s'éloigna pour aller se coucher. La nuit était déjà bien avancée quand les villages furent éveillés par un sourd grondement. La terre trembla à nouveau et une forte explosion retentit. Tout le monde se précipita au dehors. Des éclairs gigantesques zébraient le sommet de la montagne, l'éclairant brièvement. Dans sa frayeur, Radouble avait oublié son sommeil agité.
« Est-ce encore un gros orage ? Un cyclone » demanda-t-il.
« Je ne crois pas, » dit Ratafia. « Voyez comme l'air est calme. » Tout à coup, dans la nuit, une formidable lueur illumina le sommet de la montagne et quelques instants après, un roulement sinistre parvint aux oreilles des spectateurs ébahis. Un souffle brûlant balaya les alentours.
« La montagne se réveille !» cria Ravnala. « J'ai entendu parler dans mon pays de tels phénomènes. Les montagnes crachent des éclairs, du feu, de la pierre liquide. Ah oui, je me souviens maintenant. La montagne... « C'est un volcan !»
L'inquiétude céda le pas à l'effroi.
« Et que devons-nous faire, selon toi ?» demanda Ratafia.
« Nous sommes loin, » dit Ravnala. « Je ne pense pas qu'il y ait de danger, du moins dans l'immédiat. » Rastakato avait vu un volcan en activité. Il m'avait raconté qu'il prévient toujours avant de déchaîner sa colère. Une fine poussière blanche tomba du ciel.
« De la neige !» s'écria Raptus. « C'est de la neige !»
« Tu te trompes, compère !»
corrigea Radouble. « La neige est froide. Ce qui tombe du ciel ressemble à de la poussière. »«
C'est la cendre du volcan. Ainsi l'appelait Rastakato !» s'écria Ravnala.
En un instant, la fine poudre grise recouvrit le paysage. Les rats, mi-effrayés, mi-subjugués, contemplèrent un spectacle fantastique. Le jour se levait de la terre. Personne n'osait bouger malgré les difficultés que tous éprouvaient à respirer. Un nuage de cendres plus épais obscurcit le paysage, les ramenant à la réalité. Un éclat de rire les secoua quand ils se virent. Ils étaient eux-mêmes recouverts de la poussière du volcan, ce qui leur donnait un aspect blanc, gris, de vieux rats respectables.
Nous allons rentrer dans nos terriers et nous établir dans les chambres les plus solides, les plus sûres, proposa Ratafia. Demain, nous verrons comment agir et si nous devons envisager de partir.
Chacun se rangea à l'avis de Ratafia et gagna son terrier. La nuit fut agitée. Les grondements succédèrent aux tremblements et les explosions déchirèrent l'air jusqu'au jour. Quand l'aube parut, Ratafia avait déjà parcouru beaucoup de chemin. Il avait constaté que la peur s'était installée au village des humains où personne ne dormait. Les enfants, pris de frayeur, s'étaient réfugiés dans les bras de leur mère et les sorciers faisaient des offrandes à la montagne pour apaiser son courroux. La rivière limpide qui coulait à proximité du village ne charriait plus qu'un filet de boue claire. Plus grave pour le clan était la disparition de la source
à laquelle il s'abreuvait de coutume. Les couis de calebassier, couis, C-O-U-I-S, ce sont des récipients, et le calebassier, C-A-L-E-B-A-2-S-I-E-R, c'est un arbre des régions tropicales qui a comme fruit des calebasses desquelles on fait des récipients, des espèces de gourdes. Les couis de calebassier, où ils entreposaient une certaine réserve d'eau, se révélèrent souillés de cendres. Heureusement, Ratafia découvrit pendant son exploration un grand nombre de plantes qui conservaient le précieux liquide toujours propre dans leurs feuilles repliées et suffisamment à boire pour toutes les familles. À demi rassuré, il regagna le village. Assemblés sur un gros rocher, les rats silencieux contemplaient un triste spectacle. En contrebas, sur le sentier que Ratafia avait emprunté à de multiples occasions pour aller chercher de la nourriture chez les humains, la tribu de la montagne descendait vers la mer avec armes et bagages. Les jeunes humains soutenaient les plus âgés ou portaient des blessés suspendus dans des hamacs. « C'est curieux, » murmura Ralingue. « Ces humains ont été brûlés. N'est-ce pas votre avis ?»« Le volcan a dû déverser sur eux sa pierre fondue, » dit un autre. « Qu'allons-nous faire ?»
Mon père, qui avait été aussi un grand voyageur, me disait « Si tu vois les hommes quitter le navire, il est l'heure pour toi d'en faire autant. »
« Je pense que tu as raison, ami Ralingue, » dit Ratafia après un instant de réflexion. « Je peux avoir tort, mais je crains que nous n'ayons vu que le début de la colère du volcan. Nous n'allons pas prendre le risque d'être faits comme des hommes et de griller en attendant je ne sais quel miracle. Nous sommes assez nombreux pour nous charger sans peine des bébés. Nous allons donc quitter nos quartiers jusqu'à ce que la montagne se soit calmée. Mais nous la garderons toujours sous notre regard pour voir ce qu'il advient. » Le clan avait à peine entamé les préparatifs de son départ qu'une explosion plus forte que celle déjà entendue retentit. Le flanc de la montagne venait de s'entrouvrir. Un gigantesque nuage épais et noir s'échappait de cette blessure. Au lieu de monter à l'assaut du ciel, il dévala à une vitesse vertigineuse la montagne en direction de la mer dans un grondement assourdissant. Un souffle brûlant plaqua les spectateurs médusés au sol. Ratafia sentit son poil chauffer. Le vent de feu balaya les arbres. Le nuage noir fut englouti dans la mer dans un immense bouillonnement de vapeur. Il laissait derrière lui la montagne entièrement incendiée. Les rats restèrent, devant ce spectacle terrifiant, de longues minutes sans parler. Une forte odeur de poils roussis régnait parmi eux.
« Ça sent grillé !» s'exclama Radouble.
« C'est nous !»
ajouta une autre voix. Chacun se palpa, dévisagea son voisin. Par chance, personne n'était sévèrement touché en dehors de sa fourrure.
« On a eu chaud !»
dit Ralingue. Un grand éclat de rire libérateur secoua la communauté. Il fallut quelques secondes à Ralingue pour comprendre le comique de ses paroles en la circonstance. Fin de la deuxième piste. De la deuxième cassette, Ratafia, par Alain Couder, page 134.